Alors, on suit le livre des Actes depuis plusieurs dimanches. Si vous nous rejoignez, le livre des Actes, en fait, nous raconte le début de l'Église dans le sens biblique. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui s'attachent à Christ. Et donc, le livre des Actes s'ancre particulièrement dans la mort, après la mort, la résurrection et l'ascension de Christ. Et le verset, on pourrait dire introductif, qui nous aide à comprendre le livre des Actes, est le verset 8 du chapitre 1, que vous avez là derrière. Et c'est lui qui nous donne un petit peu cette grille de lecture pour le livre des Actes. Les disciples sont appelés à être des témoins de ce qu'ils ont vu et vécu avec Christ, à la fois sur le plan local, Jérusalem, sur le plan régional, la Judée, sur le plan plus grand, on pourrait dire national, confédéral, donc ça va jusqu'à la Samarie, et au niveau international, les extrémités de la terre. Alors, le défi d'être témoin de Christ dans toutes ces différentes sphères, à la fois en parole et en acte, est rendu possible pour chaque croyant parce que Dieu donne l'Esprit de Christ, qui accompagne constamment le croyant pour l'aider dans cette tâche. La vie et le témoignage de ce que Christ a fait commence à Jérusalem et permet à des milliers de personnes de s'attacher à Christ et d'être réconciliées avec Dieu. Et la dernière fois, on a vu quand même un texte assez choc avec cette histoire de cet incident avec Ananias et Saphira, où leur duplicité a été démasquée par Dieu et sanctionnée aussi par leur mort. Et ça nous a rappelé que finalement, Dieu sait tout, ce qui est public, privé, caché ou en pleine lumière. Et il reste, quoi qu'il arrive, Dieu reste vrai, transparent, lumineux et saint. Et ce qu'il désire, c'est que les personnes qui sont attachées à Dieu par Christ puissent refléter cette même attitude, à l'exemple de Christ, avec l'aide de l'Esprit de Christ. Et qu'en aucun cas, l'Église des rachetés par Christ est un lieu où la double attitude serait plus ou moins tolérée. Alors ce matin, le texte qu'on va voir se trouve au chapitre 5, on va être au verset 12, et il va être précieux parce qu'il va nous parler de la diffusion de l'Évangile. Une des questions qu'on pourrait se poser, peut-on vraiment arrêter la diffusion de l'Évangile? Est-ce qu'on peut vraiment l'arrêter? Et puis, dans ce texte, il y aura aussi deux pistes qu'on pourra aussi regarder ensemble. Est-ce qu'il y a une forme de normalité pour les croyants de faire des miracles? Est-ce que ça devrait être une habitude pour les croyants attachés à Christ? Et puis, l'autre piste qu'on pourra aussi voir, c'est notre obéissance ou non aux autorités. Alors, pour ça, on va lire. On va lire Actes chapitre 5, des versets 12 jusqu'au verset 42. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans la rue et à les placer sur des civières ou des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Peut-être que ces villes voisines, c'était la Judée. Vous voyez, l'Évangile commence à se diffuser. Je reprends verset 16. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres, les jetèrent dans la prison publique, mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir en leur disant: « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la nouvelle vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les gardes et les ramenant, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Mais Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimée de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui, Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a tiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. On retrouve encore cette indication là dans le dernier verset, à la fois cet aspect tous ensemble, le temple, et l'aspect plus particulier dans les maisons, chose qu'on essaye aussi de faire à notre mesure. Comme on l'a déjà vu, Luc, l'auteur du livre des Actes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous conduit à faire ce constat. C'est exactement le même esprit qui animait Jésus et qui anime les apôtres. Et ça se voit. Ils sont confrontés aux mêmes réactions, des réactions enthousiastes et des réactions de haine et de jalousie. Et les mêmes signes extraordinaires, miraculeux, accompagnent l'exposé de l'Évangile. Et l'Évangile ici a un nom particulier qui est donné par l'ange. Il est dit « Annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Et c'est ces termes que utilise l'ange pour parler de l'Évangile, pour parler de ce que Christ a fait par sa mort et par sa résurrection. Alors comme du temps de Jésus, les foules se déplacent pour suivre les apôtres et les mêmes signes extraordinaires accompagnent ces moments de grâce. Et comme je le disais, donc des villes entières se vident et viennent à Jérusalem. Et très certainement, ici, c'est des personnes de la Judée qui se déplacent pour être à l'écoute et être au bénéfice aussi de ces guérisons extraordinaires. Alors, guérison sur la maladie, sur le monde occulte et qui sont des guérisons évidentes, sinon les personnes ne se seraient pas déplacées. Mais ces guérisons sont à l'appui de l'annonce du message de l'Évangile. C'est tellement particulier qu'il y a ce phénomène un peu extraordinaire que les personnes mettent les malades le long de la rue en espérant que quand Pierre passe, son ombre puisse les toucher et guérir. Alors ce n'est pas le résultat, mais en tout cas, on voit qu'il y avait quelque chose de très particulier à ce moment-là. Clairement, Dieu nous signale dans ce texte que l'Esprit de Dieu est exactement le même que pendant le ministère de Jésus. Il y a une continuité entre Jésus et les apôtres, il y a la même crédibilité. Il y a le même enthousiasme des croyants. Tout Jérusalem est informé, constate le conseil des religieux et des anciens de la ville. Ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe au chapitre 4, quelques passages juste avant. Hein. Et il y a comme ici une forme d'un petit peu de répétition. On a l'impression que ce que l'on voit ici, on l'a déjà vu au chapitre 4. Et peut-être que c'est à la fois pour nous signifier que l'Évangile progresse plus loin que Jérusalem, mais qu'en même temps, pour montrer que le point central de la mission des apôtres, c'est de communiquer l'Évangile, cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Si l'enthousiasme est évident, parallèlement, on voit que l'opposition est aussi forte, tout comme ça s'était passé avec Jésus. Et le monde religieux, qui pensait en avoir fini avec la période de Jésus, finalement, non seulement ça se prolonge, mais c'est encore, ça se développe. Et leur unique réponse, ben, c'est l'utilisation de la force. Alors, ce qui est intéressant de relever, c'est que même si les hommes échafaudent des plans pour arrêter l'Évangile, les paroles de la vie nouvelle, Dieu n'est pas dépassé par leur force, Dieu n'est pas dépassé par leur stratagème. Et on en a la démonstration particulière de l'intervention de l'ange qui vient les sortir de la prison. Ça devait être quand même quelque chose de particulier. On emprisonne quelqu'un la veille, on se réveille le matin pour les juger. Il y a tous les gardes, il y a tout le système, le GIGN, je ne sais pas trop, les forces de sécurité, et il n'y a personne dans la prison. Surprenant, hein ? Et les personnes sont en train, à nouveau, de continuer à exposer l'Évangile dans le temple, comme s'il ne s'était rien passé. Mais cette arrestation, de nouveau cette comparution devant le Sanhédrin, permet d'exposer à nouveau le message de la vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement les mêmes marqueurs, c'est toujours le même message qui est donné ici par les apôtres. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous en sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Et en fait, nous, ça nous paraît un petit peu commun, peut-être, parce qu'on est habitué, je l'espère, au message de l'Évangile. Mais pour les personnes qui étaient du Sanhédrin, c'était quelque chose qui était très fort à entendre. C'était tellement choquant, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont un petit peu indignés après. Ça voulait dire que l'Éternel qui s'est révélé dans l'histoire de l'humanité, à travers le peuple d'Israël, dont il faisait partie, d'Abraham jusqu'à maintenant, sur lequel vous appuyez pour nous séquestrer, eh bien, c'est l'Éternel qui a ressuscité Jésus. Vous l'avez tué, ce Jésus, en le mettant sur la croix qui était le supplice le plus ignoble. Et alors, ce qui est aussi fort, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Dieu l'a élevé à la plus haute place, c'est-à-dire à sa droite, la place du Fils de Dieu, du Messie. C'est donc bien lui le Sauveur pour ceux qui veulent se repentir de leurs péchés. Et les disciples, les apôtres disent, on peut l'affirmer parce que nous on l'a vu et on l'a touché. Et Dieu atteste cette réalité parce qu'il nous a équipés du Saint-Esprit pour nous qui plaçons notre confiance en lui. Et c'est à travers de cet esprit que nous agissons en pleine lumière. Alors, ce message de l'Évangile que On a vu Pierre le répéter, il le répète à nouveau. Rien n'a changé. Aussi, pour nous, c'est le même message. Dieu se fait connaître de la même manière. S'il s'est révélé au peuple d'Israël, il s'est révélé pas que à eux, mais à nous aussi. Et Dieu s'est révélé dans l'histoire de l'humanité. Dieu a subi la condamnation du péché par sa mort et en a eu la victoire par sa résurrection publique. Et Dieu approuve l'œuvre de Christ en le plaçant à la plus haute place. Et il prouve que en ceux qui placent leur confiance en Christ par le don de l'Esprit. Alors, quand on lit ces histoires, des fois on est peut-être pris par, on pourrait dire, l'action qui se déroule. Mais au travers de ces histoires vraies, Dieu communique ce qui a été dit à ce moment-là est valable pour nous encore aujourd'hui. La seule chose, quand on lit ces passages, c'est quelle réponse nous allons donner. Et on voit qu'il y a deux types de réponses dans ce texte. À la fois, il y a la colère furieuse des religieux qui préfèrent rester dans leur schéma. Il n'y a pas de remise en question. Et de l'autre, on a vu qu'il y en a plein qui ont accepté l'œuvre de Christ. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est question d'hommes et de femmes. Des fois, quand il y a la numération, il est dit qu'il y avait 5000 hommes, mais là, il est question à la fois d'hommes et de femmes. La question nous est donnée aussi à nous. Est-ce que le message de l'Évangile me laisse... est-ce que ça me laisse froid? Est-ce que ça me laisse distance suffisante? Ou est-ce qu'on accepte la main tendue de Christ pour ce qu'il a fait pour nous? Et face à l'opposition, Dieu intervient de deux manières différentes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. À la fois l'ange, on en a parlé, sortie extraordinaire. Mais Dieu intervient aussi en permettant l'intervention de ce docteur Gamaliel. Gamaliel était un docteur de la loi très connu. Il y a plein d'autres écrits qui en parlent de ce docteur de la loi qui est un docteur réputé. En somme, il dit... Si ça vient de Dieu, on ne peut rien y faire. Par contre, si ce n'est pas de lui, ça s'arrêtera comme c'est venu. On a eu déjà deux exemples de personnes qui se sont élevées, etc. Si c'est des humains, ça descendra comme le soufflet, comme un soufflet, et on n'en entendra plus parler. Mais si c'est de Dieu, il vaudrait mieux ne pas avoir combattu contre lui. Et je note juste... que l'Évangile est venu jusqu'à nous et que le soufflet ne s'est pas écrasé ou éteint. L'Évangile est venu jusqu'à nous. Et c'est au travers de ce texte, on voit la manière avec laquelle Dieu suit le projet qu'il a pour sauver les hommes du péché. On est en train de voir dans les groupes de maison, au travers de... le soin qu'il apporte pour qui conduit à l'œuvre de Christ, mais on voit qu'il y a le même soin pour la transmission du message de l'Évangile. Et Dieu prend très soin, donc, par l'intervention de l'ange et l'intervention de Gamaliel. Pour autant, Dieu n'enlève pas toutes les embûches. C'est écrit en très peu de mots, mais on voit qu'à la fin... de l'entrevue des apôtres avec le Sanhédrin, ils sont fouettés. Et un tiers des coups de fouet étaient donnés sur le ventre, deux tiers sur le dos. D'ailleurs, on va faire des travaux pratiques pour voir ce que ça donne. On lit ça d'une manière un petit peu lisse, les coups de fouet. Si c'était comme ceux des Romains, c'était une quarantaine. Donc ça fait beaucoup sur le ventre et ça fait beaucoup, beaucoup sur le dos. Et Dieu n'est pas intervenu avec 12 légions d'anges pour arrêter le supplice auquel ils ont été confrontés. Et des fois, quand on lit le livre des Actes, on sélectionne un petit peu les textes en disant « Ah oui, Dieu est intervenu extraordinairement là, Dieu est intervenu extraordinairement là. » Donc, ben, ça devrait être la normalité que Dieu enlève tous les écueils. Et puis de se dire ben, « Pourquoi Dieu ne va pas faire les mêmes miracles comme dans le livre des Actes pour que j'ai une vie sans souci ?» Alors, je tiens à dire déjà qu'on n'est pas dans le jardin d'Éden et on n'est pas encore dans le paradis sans souci, hein. La grâce de Dieu nous préserve de beaucoup de maux, hein, de beaucoup du mal, de l'expression du péché, mais cette expression du péché est une réalité agissante, au travers de personnes, au travers de nos natures déchues et au travers du dépérissement qui est la suite, un des fruits du péché. La grande différence que l'on voit ici, c'est que même si les apôtres ont été suppliciés, eh bien, cette difficulté, ils l'ont vécu avec Christ, accompagné par Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à la sortie de cet épisode difficile, eh bien, il est dit que les apôtres étaient joyeux d'avoir subi les mêmes difficultés que Jésus. Pas qu'ils étaient maso, mais parce qu'ils l'avaient fait avec Christ et pour Christ. Alors, ça ne veut pas dire que dans chaque épreuve de notre vie, on doit, par fanatisme évangélique, avoir la banane, non, c'est pas grave tout ce qui m'arrive, et ainsi de suite. Mais ça nous dit que Dieu peut être un soutien sûr, même dans les moments difficiles. Et aussi, on peut constater que finalement, la proclamation du message de l'Évangile, c'est le sujet central ici, c'est souvent faite dans des contextes hostiles. Et l'histoire de l'Église, si vous plongez un petit peu dans ce que vous voyez de l'histoire de l'Église, souvent la plus grande progression de l'Évangile s'est faite dans un moment difficile. Mais Dieu a veillé à la fois sur le message, sur sa transmission et sur ceux qui étaient porteurs de ce message. Jésus, d'ailleurs, avait prévenu ses disciples que l'annonce de la vie s'oppose à ce qui règne autour et qui suscite l'opposition. Et dans Matthieu, chapitre 10, je vais vous lire ces versets à partir du verset 16. Matthieu 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. » Vous fouetteront dans leur synagogue. « À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors là, ce n'est pas un conditionnel, mais un encouragement à la persévérance en voyant l'issue. Je reprends la lecture au verset 23. « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas deux moineaux pour une pièce ? Cependant, pas un ne tombent par terre sans l'accord du Père. De même, vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Difficulté ? Grosse difficulté ? Mais l'assurance que Jésus veille et que ça on est précieux à ses yeux, précieux dans sa main. Avant de continuer cette prédication, je vais vous inviter à vous lever pour chanter « Toi, lève-toi ». Et c'est un cantique qui parle de l'annonce de l'Évangile et c'est le sujet central de ce texte. Alors levons-nous. Rien ne peut arrêter la propagation de l'Évangile. Et nous en sommes les témoins. Cependant, dans ce texte, donc, il y avait deux questions qu'on aurait pu soulever, dont on aurait pu parler, qui sont intéressantes. Les apôtres, avec l'aide de Dieu, font beaucoup de miracles. Alors nous aussi, on est au bénéfice du Saint-Esprit. Ne devrions-nous pas en faire autant, hein? Et puis l'autre aspect que soulève ce texte, clairement ici, les apôtres transgressent la loi locale du moment. Alors est-ce que nous aussi, on peut transgresser les lois ? J'en vois qui seraient d'accord. Attention. Alors pour les miracles, effectivement, on voit qu'au début du livre des Actes, il y a beaucoup de signes miraculeux évidents. Et on a vu que les villes entières... des villes entières accouraient des personnes justement pour apporter les personnes qui étaient malades dans des difficultés ou voire même possédées. Je ne sais pas si on l'a déjà remarqué, mais c'est toujours en lien avec l'exposition du message de l'Évangile. Alors est-ce que ça devrait être une normalité ? Alors déjà, on vient de voir que le fait que les apôtres font des miracles, ne les a pas empêchés à la fois d'être arrêtés et ne les a pas empêchés d'être suppliciés. Ce qui voudrait dire que Dieu n'intervient pas toujours pour tout et même pour des choses qui sont très dures et même si c'est pour apporter le message de l'Évangile. Et si on regarde bien dans tous les siècles que nous présente la Bible, on voit que les moments avec des aspects extraordinaires, de miracles, ne sont pas une généralité. Et en fait, il y a des grandes périodes où, effectivement, il y en a beaucoup plus. On pourrait voir Moïse, on pourrait voir Élie, Élisée, avec des périodes avec beaucoup plus de signes extraordinaires, le ministère de Jésus, évidemment, et le début de l'Église avec les apôtres. Et ces périodes coïncident toujours avec des carrefours de l'histoire du peuple de Dieu. Et Dieu se révèle à chaque fois d'une manière spéciale. Avec Moïse, c'est la libération de l'esclavage et l'accompagnement du peuple dans le désert qui était dans une précarité et auquel Dieu y répond d'une manière extraordinaire. Élie et Élisée étaient aussi des témoins dans un moment très difficile et un régime à l'époque qui était à peu près similaire à la Corée du Nord de maintenant. Hein? Jésus, bien évidemment, a attesté sa divinité en montrant tout son pouvoir sur les éléments, la maladie, la mort, le monde occulte. Et les apôtres, à la suite, au début de l'Église, ont les mêmes signes que Jésus, montrant le lien irréfutable entre l'un et l'autre. Et puis, quand on arrivera à la fin du livre des Actes, on voit que ça s'atténue, voire ça disparaît. Et si on regarde les épîtres, donc après, hein, qui font foi pour la vie d'Église, eh ben les mentions sont finalement très très rares. Hein, et les apôtres eux-mêmes ne sont pas au bénéfice de guérisons spectaculaires. Par exemple l'apôtre Paul. Et pourtant, l'apôtre Paul n'était pas un mauvais chrétien et l'apôtre Paul ne manquait pas de foi. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il y a moins de miracles, que Dieu n'en est pas tout aussi puissant. Hein. Mais ce qu'il voulait faire, il l'a montré. Dieu peut-il agir de la même ? Oui, bien évidemment. Dieu est souverain et Dieu est tout aussi puissant. Et d'ailleurs, si on est des observateurs équilibrés, on voit que ces aspects spectaculaires ou miraculeux sont encore plus fréquents ou de temps en temps dans des contextes hostiles et à des plus petites échelles. Alors ça ne nous enlève pas de nous attendre complètement à lui quand on est dans des situations extrêmes, bloquées. Il nous attendra, lui, dans toute l'étendue de sa puissance. Mais en revanche, ce que nous montre la parole de Dieu, c'est de ne pas s'attendre à ce que Dieu enlève tous les écueils de la vie d'une manière obligatoire par des choses extraordinaires au travers de tout ce à quoi on est confronté. C'était déjà pas le cas là, même au début des livres des Actes, et ça ne reste absolument pas le cas encore maintenant. Pour plusieurs raisons, parce que si Dieu enlevait tous nos écueils auxquels nous sommes confrontés d'une manière extraordinaire, eh bien on serait dans le jardin d'Éden, ou bien on serait déjà au paradis. Et notre vie serait sans fin, parce que Dieu enlèverait tous les soucis, le vieillissement, les choses de ce type. Dieu enlèverait tout cela. Mais, et aussi, si Dieu agissait de cette manière-là, eh bien Dieu serait menteur. Parce qu'il a dit, par rapport à la désobéissance en Éden, c'est la mort. Et donc le processus qui amène la mort, ben, c'est la déchéance avec toutes les difficultés qui sont autour, c'est le jugement par rapport à la désobéissance de l'humanité. Donc Dieu ne va pas aller à l'encontre d'une manière complète de ce que lui-même a prononcé. Il l'a fait de temps en temps, d'une manière spécifique, pour montrer sa grandeur, pour montrer ce fait à des carrefours importants de l'histoire de son peuple. Alors, ne nous attendons pas à ce que Dieu soit le grand magicien, le grand Aladdin de toutes nos difficultés dans la vie, parce que forcément, on sera déçu, parce que forcément, ça ne reflète pas la personne de Dieu. C'est une projection que l'on se fait d'une attente qui n'est pas celle qui nous montre au travers de la Bible. On voit aussi que dans les textes qui nous sont montrés, comme le texte de ce matin, il est dit que c'était les apôtres qui ont fait les miracles. Et pourtant, il y avait des milliers et des milliers de croyants, déjà, au chapitre 5. Certainement que c'était en lien pour attester ce qu'ils proclamaient. On verra que Étienne, un diacre aussi, fait des miracles en lien avec l'annonce de l'évangile, justement, au début du livre des Actes. Mais on ne voit pas d'indice de généralisation. Est-ce que ce texte est en train de nous montrer que c'est vraiment un moment particulier et fait principalement par les apôtres pour montrer la continuité entre Jésus et les disciples et les apôtres, et pour attester, bien sûr, de l'exposition du message de l'évangile? L'autre aspect qui ce texte pourrait soulever, c'est, comme on l'a vu au verset 27, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous. Les apôtres ont obéi à l'ordre de l'ange, mais n'ont pas obéi aux injonctions du Sanhédrin et des anciens d'Israël à ce moment-là. Alors, déjà je note que c'était dans un souci de transmettre le message de la vie, le message de l'évangile, c'est-à-dire celui de Christ. C'était pas pour se défausser des impôts, pour rouler à deux fois la limitation de vitesse ou je sais pas trop quoi. Donc c'était, il y avait un but qui était un but, celui de transmettre le message de la vie. Mais ce précédent, est-ce que ça justifierait que eh bien, on déroge aux lois en se disant « oui, mais moi j'obéis à Dieu ». On voit que Jésus respecte les lois. Lui-même paiera l'impôt aux Romains. Et payer l'impôt aux Romains, c'était une escroquerie, et on payait à un dictateur. Mais Jésus s'y soumet. Voilà. L'apôtre Paul, dans les Épîtres, en parle d'une manière très précise dans Romains chapitre 13. Et je vais lire à partir du verset 1. Jusqu'au verset 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir craindre l'autorité ? Fais le bien, tu auras son approbation, car le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On regarde toujours les textes du livre des Actes à la lumière du texte des Épîtres. Et clairement, nous devons respecter les lois. Hein, c'est même un des aspects qui montre notre réelle crainte de Dieu. Cependant, quand elles sont contre celui qui a institué le principe des lois, et quand il y a une forme de contrainte, d'obligation, nous devons continuer à transmettre le message qui sauve la vie, le message de vie. Et c'est un petit peu ce que l'on voit dans toute la parole de Dieu. Soumission aux autorités, et dans de très rares cas, quand il y a une contrainte, une obligation qui va à l'encontre de celui qui a institué le système de l'autorité, le système des lois. On a l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament, par exemple, où il y avait une contrainte d'adorer une idole, et Daniel ne s'y soumet pas parce qu'il respecte celui qui est au-dessus de l'idole, qui est Dieu. Voilà pour ces deux questions qui auraient pu être soulevées en lisant ce texte. On aurait pu se poser la question. Voilà quelques pistes de réflexion. Mais j'aimerais revenir sur la centralité de ce texte avec cette question du début. Peut-on vraiment arrêter l'annonce de l'Évangile ? C'est intéressant la proposition de Gamaliel. Si c'est des hommes, ça s'arrêtera. Sinon, c'est de Dieu. Et attention à ne pas y faire entrave. Donc c'est très encourageant pour notre annonce de l'Évangile, que ça nous motive à vivre l'Évangile et à l'expliquer quand on en a aussi l'occasion. C'était d'ailleurs le souci premier des apôtres. Et je suis émerveillé de voir dans ces premiers chapitres que ce qui nous est dit des apôtres, on va voir des aspects pratiques, mais le focus, c'est l'annonce du message de l'Évangile. Ce n'est pas l'organisation d'une fête charitable, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est l'annonce du message de l'Évangile. Transmettre l'Évangile pour qu'il soit compris, accepté, pour qu'il soit vécu en toute occasion. Alors des fois c'est plus simple que d'autres, et on voit qu'il y a eu des moments de grâce extraordinaires avec des milliers de personnes qui l'ont reçu avec joie, et puis d'autres qui ne l'ont toujours pas reçu, puis voire même d'autres qui étaient maltraitants. Dieu le sait, Dieu accompagne ces moments de grâce comme les moments les plus difficiles. Et les circonstances peuvent être changeantes, mais Dieu veille à la transmission de l'Évangile, cette parole de la vie nouvelle. Alors, il en est de même pour nous. La manière dont on annonce l'Évangile, des fois c'est reçu avec une écoute, on en est émerveillé et puis de plus en plus étonné. Et des fois, on a beaucoup d'indifférence ou voire d'opposition. Mais l'un comme l'autre sont dans la main du Seigneur. Jésus lui-même avait dit aux disciples, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, on connaît ses paroles presque par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le même disciple à qui Jésus a parlé, c'est ceux dont on a lu l'histoire tout à l'heure. Il y a eu des moments extraordinaires et puis des moments où c'était bien plus compliqué. Et on verra même que Étienne connaîtra le martyr. La majorité des apôtres ont connu le martyr, à l'exception de Jean. Ils ont continué. Dieu était avec eux au moment de l'annonce du message de l'Évangile. Il y a eu des moments merveilleux. Il y en a eu d'autres qui ont été moins faciles. Dieu est le même avec nous. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va tous connaître le martyr. Hein, c'est parce que c'était pas ça ma conclusion. Mais Dieu nous accompagne dans les moments plus faciles comme dans les moments plus difficiles. Et j'aimerais qu'on conclue un petit peu ce message où on voit l'Évangile progresser. On passe de Jérusalem, la région autour de Jérusalem, on doit être en Judée. Hein. Bientôt, on arrivera en Samarie. Mais il y a d'autres choses encore qui doivent se passer et on le verra dans 15 jours. J'aimerais qu'on puisse conclure ce message avec ce cantique que l'on connaît, « Nous annonçons le roi ».